Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François et le patriarche orthodoxe Bartholomée vont s'efforcer de raviver l'espérance écuménique en fin de semaine à Jérusalem. Mais le contexte régional risque de s'inviter dans ce pèlerinage strictement religieux. Nous évoquerons dans ce magazine l'impact du conflit israélo-palestinien qui s'éternise. Les élections européennes, c'est parti, avec en toile de fond le spectre de l'abstention et de la montée du populisme. Les responsables chrétiens appellent à la participation au nom du bien commun, de la solidarité, de la fraternité et du respect de l'environnement. Mais la crise est présente dans les esprits, l'inflation est attribuée à la monnaie unique et les structures semblent trop lointaines. Au sommaire également, l'excommunication de la présidente d'un mouvement autrichien réformiste. Elle organisait à son domicile des célébrations eucharistiques sans prêtre. La loi sur la famille reportée sine die en France, réaction en fin d'émission. Le pèlerinage que le pape François se prépare à accomplir en Terre Sainte sous le signe de l'unité et de la paix n'échappera pas aux réalités d'une région instable, incandescente et profondément meurtrie où les conflits peinent à trouver une solution. Qu'il suffise de penser à la guerre civile impitoyable et meurtrière qui se poursuit en Syrie. Ainsi, si l'écuménisme est le leitmotiv de ce déplacement bref mais dense, le Saint-Père ne manquera pas de toucher du doigt d'autres réalités. Dimanche matin à Bethléem où il célébrera une messe très attendue sur la place de la mangeoire et priera à la grotte de la Nativité, le pape François sera confronté à la vision du mur de sécurité qui divise Palestiniens et Israéliens sur des dizaines de kilomètres. Il déjeunera avec des familles pauvres de la région et visitera un camp de réfugiés palestiniens. Deux moments choisis pour marquer son attention aux souffrances des Palestiniens. Une souffrance que connaît bien Mgr Michel Dubost, évêque d'Évry-Corbeil-Essonne. Il est l'un des 13 évêques occidentaux de la coordination des évêques pour la Terre Sainte qui se rend sur place chaque année.
Le pape demande toujours qu'on aille aux périphéries. Il est évident que c'est une périphérie de notre monde, que cet endroit où la guerre est toujours présente. Et donc, il va là où il y a des malheurs, là où il y a de la difficulté. Et il invite, me semble-t-il, à prier pour ces gens-là, afin qu'ils gardent l'espoir. Et ce mur est un mur insupportable et probablement il est voué à l'échec. Il n'y a pas de murs dans l'histoire qui ont tenu les promesses de ceux qui voulaient les ériger. Le dernier mur que nous connaissons, c'est celui de Berlin. Il a fini par tomber. Pourquoi je dis que ça va être un échec? Parce que finalement, aujourd'hui, ce mur enferme non seulement les Palestiniens, mais enferme aussi les Juifs qui n'ont pas le droit de circuler dans un certain nombre d'endroits. Et puis, alors par contre, ce que ce mur veut dire, et je crois qu'il faut l'entendre, c'est que c'est une énorme soif de sécurité des uns et des autres. Les Palestiniens souffrent souvent d'exactions de colons. Je n'aime pas généraliser parce qu'il y a des colons qui sont des gens très bien, mais quand même ils souffrent d'exactions des colons et tout ce qui entrave la liberté suscite des passions contradictoires. Et là, je pense que le pape le verra, mais il suffit de regarder ce mur de béton qui se dresse, ne serait-ce qu'en allant à Bethléem, qui est insupportable.
Comment ressentez-vous ces derniers signes de violence xénophobe et aussi anti-chrétien, anti-musulman qui sont apparus sur des lieux saints, même ces derniers temps à la faveur, justement, à l'approche de ce voyage?
Alors, à mon sens, il y a deux choses qu'il faut absolument distinguer. Il y a certainement une radicalisation de minorités en Israël comme partout. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y avait des négociations et qu'un certain nombre de gens, d'extrémistes, ne veulent pas que ces négociations aboutissent. Et donc, ils font tout pour qu'elles n'aboutissent pas. Et vous savez que c'est la marque générale. Quand on pense que ça va aboutir, il y a un attentat, il y a un raid, il y a un assassinat qui fait que les communautés se resserrent sur elles-mêmes et essaient de se défendre.
Cette année, si je ne m'abuse, vous avez eu la possibilité, l'opportunité de vous rendre à Gaza avec les autres évêques occidentaux. Quelle a été votre impression ? Est-ce que vous vous souvenez très bien de ce que vous avez vu et ressenti à l'époque ?
Il est évident que Gaza est un lieu de prison. C'est peut-être un mot un peu difficile à prononcer parce que ce n'est pas tout à fait exact. C'est une prison à l'air libre. C'est une prison parce que c'est fermé, parce que les pêcheurs ne peuvent pas pêcher à plus de quelques mètres de la rive. C'est une prison parce que depuis le nouvel gouvernement égyptien, on ne peut pas en sortir, mais c'est une prison aussi parce que les Israéliens contrôlent absolument toutes les entrées et toutes les sorties, et que ceux qui sont là, s'ils ont un âge compris, les hommes entre 20 et 40 ans, ne peuvent pas circuler du tout. Moi, je pense que le pape croit, et nous croyons avec lui, à la vertu de la prière. Je crois que le pape croit à la vertu de l'amitié et de la main tendue.
L'évêque d'Évry, Mgr Michel Dubost, interrogé par Bernard de Cotigny. Et on apprenait ce jeudi à la mi-journée que plusieurs centaines de membres de la petite minorité chrétienne de la bande de Gaza ont été autorisés à passer en Israël pour voir le pape à Bethléem. Israël a accordé environ 650 autorisations aux chrétiens de Gaza pour se rendre en Cisjordanie. Mais de nombreux catholiques locaux ne cachent pas leur déception. La plupart d'entre eux ne verront le successeur de Pierre que de loin. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que les Palestiniens, chrétiens et musulmans, n'oublieront jamais le soutien du Vatican à leurs droits. Écoutez Claudette Abèche, secrétaire générale de Caritas Jérusalem.
Nous sommes vraiment très contents que le Saint-Père va venir dans la région, vu qu'il y a des difficultés énormes, la situation en Syrie, un peu partout dans la région, si vous voulez, l'occupation israélienne du peuple palestinien qui continue. Et nous nous attendons à ce que cette visite portera des fruits. Bien sûr qu'il y a eu deux papes qui sont déjà venus, on s'est attendu à ce que leur visite fasse une différence. Bien sûr que la visite fait une différence. Pour nous, c'est un signe d'espérance, c'est une visite de solidarité avec les communautés de la région, mais j'espère qu'on pourrait éventuellement arriver à une justice qui mènera vers la paix dans toute la région.
Alors justement, on sait que le pape François est très très attentif, très sensible aux situations des gens qui sont dans le désespoir, qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité, dans l'urgence. On peut s'attendre à des paroles fortes, à des actes forts, même si la visite est brève.
On l'espère bien. D'ailleurs, nous croyons qu'il connaît bien la situation. Il est bien informé, il connaît bien la situation. Et j'espère que sa visite pourra mener à changer un peu les cœurs de ceux qui sont dans le pouvoir et qui peuvent faire une différence.
La secrétaire générale de Caritas Jérusalem, interrogée par Bernard de Cotigny. L'occasion de ce pèlerinage, on le sait, est de commémorer le cinquantenaire de la rencontre mémorable de Paul VI et d'Athénagoras à Jérusalem. L'heure du courage chrétien est arrivée, affirmait le patriarche de Constantinople. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours émouvant prononcé par Paul VI le 6 janvier 1964 à la Sainte Grotte de Bethléem.
Nous vivons l'heure historique où l'Église du Christ doit vivre son unité profonde et visible. C'est l'heure pour nous de répondre aux vœux du Christ, qu'il soit parfaitement un et que le monde reconnaisse que toi, Père, tu m'as envoyé. À l'unité interne de l'Église correspond à l'extérieur sa force apologétique et missionnaire. Il apparaît désormais clairement à tous qu'on ne peut éluder le problème de l'unité. Aujourd'hui, cette volonté du Christ s'impose à nos esprits et nous impose d'entreprendre avec sagesse et amour tout ce qui est possible pour permettre à tous les chrétiens de jouir du grand bienfait et du suprême honneur de l'unité de l'Église. »
C'est au Royaume-Uni et aux Pays-Bas qu'a été donné le coup d'envoi des élections européennes qui se poursuivront jusqu'à dimanche soir dans un climat de désenchantement. Les électeurs des pays de l'Union européenne doivent désigner pour 5 ans les 751 députés du Parlement européen, un des trois principaux organismes de l'UE. Dans plusieurs pays clés, ce scrutin pourrait voir les partis eurosceptiques et populistes réaliser des scores historiques. On s'attend par ailleurs à un fort taux d'abstention. Au cours des dernières semaines, les responsables chrétiens ont multiplié les appels pour rappeler l'importance de la construction européenne et mettre en garde contre le risque de repli sur soi. Mais l'implication de l'Église ne fait pas l'unanimité parmi les catholiques qui ne se reconnaissent pas dans les choix de Bruxelles en matière d'éthique. En France, l'ancien président de la Manif pour tous, Guillaume de Prémard, estime que défendre l'Europe au nom des valeurs de l'Évangile relève de l'imposture. Anne-Marie Dumont a travaillé en Pologne, République tchèque, Hongrie, Estonie et Lettonie sur les questions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle tire aujourd'hui un bilan positif de l'élargissement de l'UE, 10 ans après son agrandissement vers l'Est de l'Europe en 2004.
Il y a bien une politique sociale de l'Union européenne. L'invasion de la pauvreté, et hélas de la pauvreté extrême, a vraiment atteint le cœur des projets européens. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'associations travaillaient seules, sans passerelle avec d'autres, alors qu'elles faisaient les mêmes choses souvent, elles réinventaient les mêmes solutions. Du coup, une richesse se perdait. L'Union européenne n'est pas merveilleuse. Nous avons encore beaucoup à faire, mais elle a permis de découvrir que travailler ensemble, se connaître, s'informer réciproquement, travailler avec les personnes elles-mêmes en situation de pauvreté, faisait avancer considérablement les efforts qui peuvent être faits. Avec les épiceries sociales, par exemple, qui sont une vraie nouveauté et qui existent maintenant dans tous les pays d'Europe, avec les travaux d'Emmaüs, que nous connaissons bien en France, mais qui sont aussi inscrits dans l'ensemble de nos pays voisins. Les compétences de l'Union européenne sont mal connues, et quand on les explique, elles sont tellement évidentes, elles sont tellement simples, que les gens comprennent, bien sûr, et qu'ils adhèrent à cela.
On vient de fêter les 10 ans de l'adhésion d'anciens pays soviétiques à l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, la situation aujourd'hui dans ces pays est clairement meilleure que si ces pays n'avaient pas adhéré à l'Union européenne ?
Ah, ça, je peux en témoigner vraiment. Il est certain que ces pays-là ne sont pas entrés dans l'Union européenne pour rester pauvres. Toute l'organisation qu'ils ont mise en place leur a permis de faire des petits pas en évitant les erreurs que nous avions commises nous-mêmes. Nous n'avons pas imposé de modèle dans ces pays, mais nous leur avons expliqué que nous avions fait de grosses erreurs et qu'en se préparant à entrer dans l'Union européenne, il ne fallait surtout pas qu'ils fassent les mêmes, mais qu'ils inventent un cadre qui serait beaucoup plus propice à l'évolution des citoyens. Alors là aussi, l'économie, bien sûr, a pris une grande place, et l'argent, comme dans nos pays. Mais il y a maintenant des équilibres. Regardez la Pologne. On a beaucoup barlé les salaires qui faisaient que nos entreprises se délocalisaient, que les chauffeurs routiers mangeaient le travail des Français parce qu'ils étaient très peu rémunérés. Mais les syndicats de ces pays agissent très, très, très intelligemment. Et petit à petit, les salaires augmentent, les conditions de travail évoluent et se rapprochent de plus en plus des nôtres. Et je crois que c'est un grand progrès. Nous sommes seulement à la moitié du guet encore. L'Europe solidaire, elle se dessine vraiment dans la finesse, dans la discrétion, mais elle avance, mais elle progresse.
Anne-Marie Dumont de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, interrogée par Jean-Baptiste Cocagne. Des élections présidentielles sont prévues en Égypte les 26 et 27 mai. Le patriarche copte orthodoxe appelle les fidèles à se rendre aux urnes pour donner au pays un nouveau président. Selon les estimations, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi devrait remporter la présidentielle face à son unique rival, le leader de gauche, Hemdine Sabahi, alors que le pays est confronté à une crise économique et de graves problèmes de sécurité. En Autriche, le diocèse d'Innsbruck a excommunié Martha Heser et son mari pour avoir célébré la messe sans prêtre. La célébration de l'Eucharistie par une personne n'ayant pas reçu l'ordination sacerdotale est une infraction particulièrement grave qui, selon le droit de l'Église, entraîne l'excommunication automatique. Sauf que Martha Heser est la présidente autrichienne du mouvement de catholiques réformateurs Nous sommes l'Église, fondé au milieu des années 1990 dans la foulée du scandale des abus sexuels par des Autrichiens favorables à des réformes au sein de l'Église catholique. Cyprien Viette.
Ce mouvement laïque également actif en Allemagne est très critique envers Rome. Il déclare se référer au Concile Vatican II qui n'a cependant jamais remis en question la doctrine catholique sur l'Eucharistie. Il est notamment connu pour ses prises de position en faveur de l'ordination des femmes et pour ses appels à accorder une place bien plus grande aux laïcs. Cependant, la sanction ne vise pas le mouvement réformiste, mais les personnes à l'origine de crimes que l'Église considère comme très graves. Par ailleurs, le pape François et la Congrégation pour la doctrine de la foi ne sont pas intervenus dans cette affaire qui est du ressort de l'évêque local. La procédure avait été engagée à la suite d'un reportage de la télévision publique autrichienne ORF en 2011, montrant le couple en train de célébrer l'Eucharistie à leur domicile sans prêtre. Depuis plusieurs années, Martha Heitzer ne cache pas qu'elle et son mari accueillent chez eux de telles célébrations auxquelles quelques croyants participent régulièrement. L'évêque d'Innsbruck a exprimé sa peine de ne pas avoir réussi à faire changer d'avis le couple Heitzer afin d'éviter ce processus. La constatation de cette auto-excommunication n'est pas une victoire, a-t-il dit, mais une défaite pour l'Église, et c'est avec un grand regret qu'il l'accomplit. Il appartient maintenant aux époux Heitzer de créer les conditions pour que cette excommunication soit levée.
Le prochain président de la conférence épiscopale italienne sera encore nommé par le pape François, mais sur la base d'une liste de 3 noms choisis par l'Assemblée générale. Cette importante nouveauté, qui suppose une révision des statuts, a été décidée par les évêques italiens qui ont finalement opté ces jours derniers pour une solution de compromis. Jean-Baptiste Cocagne.
L'assemblée plénière des évêques italiens qui vient de s'achever avait été inaugurée exceptionnellement par le Saint-Père lundi, une première dans l'histoire. La conférence épiscopale italienne est la seule à ne pas élire directement son président. Celui-ci a toujours été nommé par le pape, évêque de Rome et primat d'Italie. Mais depuis son élection, le pape François s'est plus d'une fois exprimé en faveur d'un choix plus collégial et demandé aux évêques italiens de réfléchir sur le mode d'élection du président par les évêques, comme cela se passe dans le reste du monde. La question a suscité de nombreux débats et commentaires, mettant au jour les courants qui traversent cet épiscopat influent et ses rapports en dents de scie avec l'opinion publique italienne. Les évêques italiens ont finalement voté en faveur du maintien de leur lien particulier avec le souverain pontife et contre l'élection directe, tout en se prononçant pour une plus grande participation des évêques au choix du pape. Le Saint-Père pourra donc choisir le prochain président de la conférence épiscopale italienne parmi les 3 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages lors d'un vote en assemblée plénière. De plus amples informations sont attendues lors de la présentation du communiqué final vendredi à la mi-journée.
En France, l'examen de la loi famille a été reporté sine die. Les discussions concernant ce texte qui porte sur l'autorité parentale ont été interrompues dans la nuit de jeudi, les députés de l'UMP ayant déposé quelques 700 amendements. Les débats ont été interrompus lors de l'examen de l'article 10 qui concerne la reconnaissance du statut des beaux-parents. En début de semaine, à l'issue de débats houleux, les députés s'étaient en revanche accordés sur le principe de la double domiciliation de l'enfant d'un couple séparé. Écoutez la réaction de Tuc Duval-Derville, délégué général d'Alliance Vita.
Pour Alliance Vita, bien sûr, on se réjouit de ce report. Et une de ses significations, c'est qu'il y a désormais à l'Assemblée nationale des députés assez nombreux qui sont engagés fermement en faveur de la famille et qui refusent cette loi qui était un peu une loi fourre-tout et qui visait finalement par rentrer par la fenêtre après avoir cédé à nos manifestations du mois de février pour réintroduire des systèmes de précarisation de l'enfant. Et c'est vrai que désormais la culture qui vise à déconstruire la famille en prétextant bien sûr les réelles fragilités des familles et les nécessités de trouver des solutions pour les enfants, mais cette culture de déconstruire de la famille recule parce que on lui résiste. Et ça, c'est vraiment le signe majeur. Nous avons désormais des relais solides qui ne laissent pas cette culture de déconstruction saper les repères prioritaires pour l'enfant, notamment celui d'avoir son père et sa mère et dans la mesure du possible de vivre avec eux.
Alors évidemment, les réactions n'ont pas tardé suite à ce report. Donc côté UMP, on crie victoire. La secrétaire d'État à la famille, elle, assurait que le gouvernement ne laisserait pas tomber ce texte dans les oubliettes de l'obstruction parlementaire. Le débat reste particulièrement houleux. On peut déplorer justement ce manque de discussion apaisée.
C'est assez logique qu'il y ait effectivement une cristallisation droite-gauche. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que ceux qui défendent la famille, je veux dire, dans sa réalité, hein, parce que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, et c'est malheureusement des accidents de vie qui parfois font qu'on ne peut pas vivre ensemble, et bien ceux qui défendent la famille sont comme décomplexés.
Tuc Duval-Derville, délégué général du mouvement Alliance Vita, interrogé par Hélène Destombes. Une religieuse catholique est morte à la suite d'une violente agression en Malaisie. Sœur Juliana Lim, âgée de 69 ans, appartenait à la congrégation de l'Enfant Jésus. Elle avait été agressée le 14 mai par un homme au visage masqué, alors qu'elle se trouvait en compagnie d'une consœur à l'intérieur du complexe de l'église de la Visitation. Sa consœur est toujours hospitalisée. L'église en Malaisie est choquée et préoccupée par cette agression. Selon la police, il pourrait s'agir du geste d'un déséquilibré, mais l'hypothèse d'une agression antichrétienne n'est pas écartée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.